Les jardinières. Les températures n'en finissent pas de grimper et vous vous demandez comment faire pour garder votre potager en pleine santé. Eh bien, vous êtes au bon endroit. Bienvenue chez les jardinières qui accueillent cette semaine Brian qui m'accompagne jusqu'à 8h. Bonjour.
Bonjour Raphaël, bonjour à toutes et à tous.
Ce matin, nous sommes également en compagnie d'Olivier Ribaud qui va répondre à toutes vos questions jusqu'à 8h. Bonjour Olivier.
Eh bien, bonjour aussi.
Olivier Ribaud, on rappelle que vous êtes pépiniériste et propriétaire d'Olivier Pépiniériste à Queuve. Merci d'être là ce matin.
Et c'est parti pour une heure au jardin.
7h, 8h, les jardinières.
La semaine a été caniculaire, alors même si c'est parfait pour votre bronzage, les plantes ont besoin d'eau. Olivier, à part un bon arrosage, faut-il faire autre chose pour garder son potager en forme quand il fait très chaud ?
Alors en effet, on souffre du chaud, ça sèche bien sûr. Alors il y a beaucoup de choses à faire quand même. Quand vous dites un bon arrosage, oui en effet, il faut faire un bon arrosage. Je dirais que... Quand on parle d'un bon arrosage, il faudrait bien utiliser soit des systèmes d'arrosage directement accrochés à son tuyau pour qu'on puisse vraiment arroser, pour que l'eau puisse aller en profondeur dans la terre, dans son jardin, pour pouvoir après éviter d'être obligé d'arroser tout le temps. Parce que si vous arrosez toujours un tout petit peu, on va juste mouiller les 2-3 premiers centimètres. Et puis les plantes, elles vont toujours demander cette eau parce que sinon elles vont faire des racines qu'en surface et puis elles auront très vite soif. Alors un arrosage c'est une chose, mais il y a aussi d'autres choses comme par exemple on peut ombrer son jardin, on peut mettre quelques morceaux de bois debout et mettre une toile à ombrage par-dessus pour casser justement ce rayon du soleil qui va dessécher notre jardin et notre terre. Et puis il y a aussi toujours la fameuse chose qu'on fait, c'est un dicton qui disait un binage équivaut à 2 arrosages. Ça veut dire que si vous avez des plates-bandes maintenant de choux, d'oignons, de poireaux qui sont plantés dans votre jardin, vous allez faire un petit binage avec une petite pioche et puis casser la croûte de la terre et ça va empêcher l'eau de s'évaporer trop vite depuis l'intérieur du sol et puis partir en vapeur qu'on ne voit pas mais qui va faire sécher la terre encore plus vite. Donc un petit binage, rechausser, donc ramener un peu de terre au pied des plants et ça va aider à ce que nos légumes et puis nos plantes gardent le cap pour la future pluie qui peut arriver, on verra quand.
Merci Olivier. Les Jardinières, c'est votre émission jardinage et notre spécialiste répond à vos questions que vous pouvez poser par téléphone au 0900 70 20 20 pour 36 centimes la minute ou par SMS, vous tapez jardin, un espace et votre question et vous envoyez ce message au 939 ou en remplissant le formulaire disponible aussi sur notre site internet sous l'onglet émission, question jardinière avec en plus la possibilité de joindre une photo à votre question.
Et dans quelques instants, nous allons parler de la taille d'été et plus en détail des lilas et des rosiers.
Les Jardinières.
Ce matin, nous allons nous occuper de vos arbustes, de vos lilas, de vos rosiers encore, de vos jasmins, des poètes. Olivier Ribaud, quand on parle de taille des arbres, on pense le plus souvent que ça se fait au printemps, voire en automne, mais certains arbres doivent être taillés maintenant. Pourquoi ?
Alors oui, en effet, quand on dit taille, on pense tout de suite à une taille d'automne où c'est qu'on va couper des grosses branches, où c'est qu'on va faire vraiment un élagage, où c'est qu'on va redonner une forme à un grand arbre ou le rabattre. Mais il y a aussi la taille d'été. La taille d'été, c'est une taille beaucoup plus légère. On va couper des rameaux d'arbres, de végétaux qui sont encore pas ligneux. Ça veut dire qu'ils ont encore pas été transformés en bois. Ces fameuses branches qu'on couperait pour l'automne ou l'hiver. Donc on va couper des branches qui sont plutôt herbacées, qui sont encore un peu vertes, où c'est qu'il y a des feuilles dessus, et puis qu'on va essayer de redonner une forme, de structurer notre arbre, justement pour refaire pousser encore cette année. Si je coupe maintenant un noisetier, par exemple, on va y enlever un tiers de branchage, ou un 30 à 40 cm pardon, au bout de la branche, et bien vous verrez qu'il va repousser encore jusqu'à cet automne pour redonner un feuillage nouveau, propre, ou bien donner une nouvelle forme.
Et mon cher Olivier, qu'est-ce qui arrive aux arbres si on ne les taille pas en été ?
Alors justement, ce n'est pas une nécessité de faire une taille d'été, mais par exemple, des fois, on va tailler comme maintenant, on va commencer de tailler les haies de charme. Si on a une haie de charme qui donne au bord d'une route ou d'un trottoir, on va prendre là un taillet, on va rabattre cette haie et elle va encore repousser, elle va refaire un beau feuillage et puis ça refera un aspect esthétique en feuilles vertes jusqu'à l'année prochaine au même moment. Donc on n'est pas obligé, mais si on doit, par aussi des effets où c'est que la plante prend trop de place, donc on peut tailler depuis maintenant et ça repoussera encore pour cette saison.
Si on va un peu plus dans le détail, Olivier, il y a le lilas et c'est le dernier moment pour s'en occuper. Quels sont les soins dont il a besoin ?
Oui, alors c'était une question, mais si on va tailler des arbres à fleurs, donc on parle d'un lilas qui est très connu, on a déjà par exemple taillé les forsythias qui fleurissent au printemps un peu plus tôt, le fameux arbuste à fleurs jaunes. Donc ceux-là, on taillera toujours ces arbustes tout de suite derrière la floraison, on va les laisser fleurir, mais en les taillant, comme le lilas, comme vous dites, on ne va pas seulement enlever la fleur, on peut enlever 20 à 30 cm de pousse où il y avait la fleur. Et cet arbre, cette année, refera déjà une branche avec un bouton terminal qui va se transformer en fleur déjà l'année prochaine. Parce que si j'attends cet automne pour le tailler, donc on va le couper, on peut faire la même grandeur de coupe, mais on n'aura pas de floraison au printemps l'année prochaine.
Et après le lilas, on va s'occuper de nos rosiers parce qu'eux aussi ont besoin de taille l'été. Comment et quand enlever les fleurs fanées ? Comment s'y prendre ?
Alors le rosier, c'est aussi un arbuste qui réagit très bien aux tailles d'été. Quand on voit au printemps nos rosiers, ils vont pousser, ils vont faire un bouton, ils vont faire une magnifique fleur. Alors il y a deux, trois possibilités, mais souvent les gens ils vont enlever que la fleur, ils ont juste enlevé ce qui a été fleuri, donc passé. Mais par contre, on peut tailler un peu plus court, on peut redescendre dans la branche. Et puis là où on coupera, on aura un départ de deux végétations ou trois branches qui redonnent deux ou trois fleurs. Et puis on va faire ça à plusieurs fois pendant la saison de floraison. À chaque fois, on aura une pousse et une nouvelle floraison. Et toujours en sachant qu'un rosier, autant qu'un lilas, mais surtout nos rosiers, si on veut leur faire faire assez de fleurs, une grande floraison pendant toute la saison, eh bien au printemps, on aura déjà fait un apport de nutrition. Mais quand on commence de refaire ces tailles puis qu'on leur demande de pousser encore une fois pour nous redonner des floraisons, eh bien on peut à ce moment-là de nouveau les aider en leur amenant un élément nutritif, un engrais, un apport de différentes choses pour qu'on ait une floraison assez abondante jusqu'à l'automne.
Merci beaucoup Olivier pour ces premiers conseils. Je vous propose de continuer de parler de ces tailles d'été. On s'occupera notamment d'un jasmin des poètes d'ici quelques minutes.
Les jardinières.
Et dans les jardinières ce matin, en compagnie d'Olivier Ribou, pépiniériste à Queuve, on s'intéresse à la taille d'été pour nos arbustes. Nous avons parlé des lilas et des rosiers, on s'intéresse maintenant au jasmin des poètes. Alors pour commencer Olivier, est-ce que vous pouvez nous décrire cet arbre ?
Oui, alors tout à fait, c'est déjà une bonne chose de savoir ce qu'on taille, je dirais. C'est souvent le cas, on connaît pas forcément toujours les arbustes, le nom. Donc le jasmin des poètes, c'est le nom français, le nom commun du Philadelphus, ou ce qu'on pourrait encore appeler le seringa pour ceux qui connaissent un peu plus. C'est ce fameux magnifique arbuste qui est en fleurs blanc à cette période. Maintenant, il est toujours en fleurs dans la période de la fête Dieu, en fait. C'est un arbuste qui était utilisé pour composer les reposoirs aussi dans le temps. Et il est très parfumé, il a une odeur de jasmin. Sa floraison peut varier, il y a des fleurs simples, des fleurs doubles. Il vient assez volumineux, on les voit au bord des routes maintenant. Ils ont vraiment ces grandes tiges blanches et c'est vraiment très magnifique. C'est joli.
Et alors, comment doit se tailler un jasmin des poètes en été ?
Alors justement, c'est pour ça qu'on peut procéder à une taille d'été sur ce genre d'arbuste, parce que c'est un arbuste qui fait une longue pousse l'année d'avant, et puis sur cette longue pousse, il y a toute cette ambre de fleurs. Alors ça fait du poids, et souvent il retombe, et puis on se dit « Ah, comment on peut faire ?» Donc à ce moment-là, une fois que maintenant c'est fini de fleurir, dans certaines sortes de jasmins fleurissent plus vite que d'autres, mais quand le pétale, tout est tombé, et bien là on peut pratiquer une taille, on peut recouper toutes ces branches, qui se sont arqués, redonner une forme à notre arbuste, à notre plante, pour qu'encore cette année, il refasse une pousse de nouveau, pour avoir une fleur l'année prochaine.
Olivier, vous avez également pensé à nous présenter dans cette émission un arbuste peu connu, le Colquevitzia. Disons-nous plus sur cet arbuste originaire de Chine. J'espère que je l'ai bien prononcé.
Alors oui, tout à fait. Un Colquevitzia, c'est un arbuste à floraison rose qui est un arbuste qui est aussi un peu moins connu parce qu'on trouve souvent dans le commerce, dès le printemps, quand on a envie d'aller au jardin, des arbustes à fleurs, Forsythia, Spirée, toute la famille des arbustes qui fleurissent vite au printemps. Et là, on essaie d'un petit peu varier quand on est un peu connaisseur de vouloir avoir des arbustes de floraison un peu plus tardives, donc qui arrivent déjà maintenant au mois de juin. Après, on a encore d'autres arbustes qui vont fleurir juillet, août, donc comme par exemple l'hibiscus qui est un magnifique arbuste qui fleurit plus tard. Et on a eu dans la période de maintenant aussi les végélias qui sont des beaux arbustes. Et tous ces arbustes qui fleurissent après le printemps, comme maintenant, donc on peut les utiliser en taille d'été, ça veut dire, comme on en parlait depuis le début, pour leur redonner une forme, parce que si on les a taillés cet hiver ou ce printemps trop tôt, on n'aurait pas eu ces fleurs maintenant. Donc souvent, ceux qui les connaissent, ils ne les touchent pas au printemps, et on les taille maintenant pour les redonner la forme, pour avoir de la fleur l'année prochaine.
Et pour les personnes qui n'ont jamais pratiqué de taille en été, quelques conseils pour ne pas se louper?
Pour ne pas se louper, il faut essayer, puis après observer ce que ça donne, je dirais. Mais en sachant que quand vous coupez un arbuste, qui soit à fleurs ou qui fait que des feuilles, automatiquement vous allez remarquer, une fois qu'il sera été coupé, comment il va repousser. Donc il faut faire de l'observation. Et si vous avez coupé très court, vous verrez qu'il va repousser aussi bien. Donc après, c'est à chacun de se lancer, de couper, de ne pas avoir peur d'éclaircir un arbuste, surtout parce que c'est aussi important d'enlever des vieilles branches. Et alors ça, on va essayer de le faire plus en hiver parce que c'est plus facile, mais même maintenant, si on a des arbustes qui sont très fortement chargés en branches à l'intérieur, on peut aussi un petit peu les éclaircir même qu'on est en été.
Merci beaucoup Olivier, grâce à vos conseils nous allons pouvoir tailler sereinement nos arbustes maintenant. N'oublie pas bien sûr de se protéger, ça évitera de se blesser juste avant de partir en vacances. Je vous propose pour la suite des jardinières de faire une petite pause et dans la suite il sera temps de répondre aux questions de nos auditeurs. Brian, peut-être qu'on rappelle une fois les numéros juste avant de partir en pause.
Alors, vous pouvez nous appeler au 0900 70 20 20 pour nous avoir au téléphone et pouvoir poser votre question en direct à notre spécialiste. Ou par message au 939, vous pouvez envoyer votre message et bien sûr mettre la mention jardin suivi de votre message au 939 et aussi par formulaire sur notre site internet.
Merci beaucoup Brian, c'était un test pour voir si vous étiez attentif. Allez, à tout de suite dans les jardinières.
Les jardinières.
Deuxième partie de notre émission jardinage du samedi. Et si vous avez loupé la première, pas de panique. Vous pourrez réécouter l'émission podcast sur notre site internet durant le courant de la matinée. Nous sommes ensemble donc jusqu'à 8h. Il nous reste un peu moins d'une demi-heure à le passer ensemble. Et c'est en compagnie d'Olivier Ribaud ce matin que nous sommes, pépiniériste et propriétaire d'Olivier Pépiniériste à Queuve, qui répond à vos questions. Brian, deuxième tentative. On rappelle peut-être les trois possibilités.
Vous avez exactement trois possibilités pour poser vos questions par téléphone au 0900 70 20 20 pour 36 centimes la minute, ou par SMS, vous tapez jardin suivi d'un espace et votre question. Vous envoyez ce message au 939 et vous avez aussi l'option formulaire disponible sur notre site internet sous l'onglet émissions questions aux jardinières.
Et Olivier, je vais vous proposer de directement commencer avec une question que l'on a reçue par téléphone, mais Brian, l'auditrice, ne voulait pas parler à l'antenne.
Et oui, c'est Marie-Claire de Courtetelle qui nous dit, qui vous pose cette question. J'ai des petites bestioles accrochées à des reines claudes et des pruneaux et damascines. Il me semble qu'elles s'envolent. Qu'est-ce qu'on peut faire?
Alors, la description de la petite bestiole est assez difficile à reconnaître, je dirais, comme ça de loin, mais je dirais qu'au jour d'aujourd'hui, ce printemps, on a eu une attaque de petits parasites, j'appellerais ça comme ça, assez conséquent sur tout ce qui est arbre fruitier, donc pucerons, on a eu d'autres petites parasites araignées ou autres, mais c'est surtout les pucerons qui sont venus coloniser beaucoup les arbres fruitiers. Alors, on est dans une période où les fruits sont en train de se développer, pour ceux qui en ont la chance, mirabelles ou pommes ou reine Sainte-Claude, ils sont en train de grossir. Bien sûr, dans le temps, on utilisait beaucoup de produits phytosanitaires pour combattre ces parasites. À l'heure actuelle, maintenant, je dirais que à l'état des fruits, plus grand chose à faire. À l'état des feuilles, qui sont très 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 attaquées, qui sont roulées, qui se sont fait piquer. Donc les pucerons ont piqué le feuillage et les feuilles se sont battues et elles se sont recroquevillées. Je dirais qu'il faut plus trop regarder ces feuillages. On voit déjà maintenant qu'il fait chaud, ces pucerons ont disparu quasi naturellement, mais le feuillage roulé est resté. Donc ne faites quasi rien, à part si vraiment c'est des jeunes arbres, peut-être les aider maintenant s'il fait très chaud avec un arrosage assez copieux pour que le fruit puisse continuer de rester accroché à l'arbre. Mais sinon, au niveau des pucerons, ils vont disparaître tout seuls. On voit les nouvelles feuilles qui sortent au bout des branches. À l'heure actuelle, elles ne sont plus piquées, elles ne se roulent quasi plus. Donc ce n'est plus la peine de faire quoi que ce soit à cette période.
Merci beaucoup Olivier, on espère que tous ces bons conseils aideront notre auditrice. Autre question que l'on a reçue cette semaine, j'ai beaucoup de ciboulette un peu partout dans mon jardin. Avez-vous quelques idées pour la conserver et peut-on la congeler ou autre? Merci de et que de faire des tiges pardon qui sont en fleurs. Alors on va peut-être prendre les questions dans l'ordre. Déjà, comment on fait pour conserver de la ciboulette?
Alors ça c'est une question qu'il faudrait poser plutôt à monsieur le cuisinier qui passe des fois à l'antenne, mais bien sûr vous pouvez la congeler, vous pouvez faire des beurres, vous pouvez faire beaucoup de choses, la mettre dans une boîte et puis la congeler entière, ça c'est sans problème et ça se congèle très bien, aussi bien que le persil entre nous. Et puis après, par contre, aussitôt que la ciboulette est en fleur, alors là il faudrait la couper, là il faut tondre sa ciboulette à 2-3 cm et de nouveau là derrière apporter un arrosage assez copieux pour la faire repousser et pour avoir toujours des jeunes tiges fraîches pendant la saison. On peut faire ça jusqu'à l'automne sans problème.
Encore une autre question, mes plantons de tomates ont les feuilles blanches comme si elles étaient sales. Est-ce que c'est une maladie? Comment la traiter?
Alors de nouveau, sans voir les plantes, c'est toujours assez compliqué, mais je pense que si c'est blanc, ça va être justement un petit champignon qui est venu s'installer à la surface des feuilles qui s'appelle l'oïdium. On peut traiter, mais de nouveau, en sachant que maintenant on est dans une période de forte croissance de la plante tomate, s'il y a quelques feuilles qui ont été comme ça attaquées, il vaudrait mieux les couper, les supprimer, la plante va en refaire des nouvelles, donc on va déjà empêcher de réutiliser de nouveau un produit chimique. Je dirais que maintenant, il fait tellement chaud aussi pour nos tomates, je reviens un petit peu sur le début de l'émission, ce serait bien de les ombrer, justement, soit les gens ont planté ça sous un plastique ou sous un endroit pour leur donner de la chaleur, et vu qu'il fait très très chaud, alors par-dessus ce plastique, on peut mettre une toile à ombrage, on peut mettre, même si on n'a pas beaucoup, et puis que c'est petit, des papiers journaux, pendant la journée, pour casser le rayon du soleil et les arroser au pied le soir copieusement pour faire pousser rapidement ces tomates. Et c'est là qu'on aura un feuillage sain et propre. Donc vaut mieux couper, supprimer des feuilles malades pour favoriser à ce que de nouvelles feuilles viennent se mettre en place pour faire pousser nos plants de tomates.
0 901 70 20 20, vous nous appelez pour poser votre question en direct à Olivier Ribaud qui est avec nous jusqu'à 8h. Vous pouvez également nous contacter par SMS, vous tapez jardin, un espace suivi de votre question. Vous nous envoyez ce message au 939 ou vous passez par notre site internet. Vous avez le formulaire questions aux jardinières et là vous pouvez même y joindre une photo. On continue de vous poser des questions, Olivier. D'ici quelques instants, on parlera notamment d'une pelouse.
Les jardinières.
On reçoit de nombreux appels et de nombreuses questions. On vous en remercie chaque semaine de votre fidélité dans les jardinières entre 7h et 8h. Et on a reçu Marie-Claire au téléphone, Brian. Et Marie-Claire avait une petite précision.
Ouais, alors elle nous a dit que c'était des petites bestioles. Elle a donné des précisions sur ces petites bestioles. Elle a dit qu'il s'agit de sortes de coccinelles sur les fruits et non sur les feuilles.
Alors, en sachant tous que la petite coccinelle est le parasite numéro 1, donc l'insecte numéro 1 qui vient manger les pucerons. Donc c'est pour ça que si elle a des pucerons, elle a des coccinelles. Et après, en plus de tout ça, je pense qu'il y a aussi des fourmis. En sachant que les fourmis viennent manger les l'excrément du puceron. Parce que le puceron, quand il pique les feuilles ou les fruits, il va absorber de la sève et il va faire un excrément qui est un peu sucré. Et les fourmis viennent manger cet excrément. Donc plus on a de fourmis, plus on affaiblit les pucerons. Et puis les coccinelles viennent manger les pucerons. Donc c'est un petit peu un élément naturel qui s'est mis en place chez elles, qu'il faut observer et qu'il ne faut surtout pas amener un produit chimique là-dessus. Parce qu'elle va tuer et puis casser cet équilibre naturel qui s'est mis en place et qui va se mettre gentiment jusqu'à l'automne comme ça, sans problème en place, et puis qu'il faut laisser.
Merci beaucoup Olivier, comme ça Marie-Claire sera au point pour traiter tout ça. Brian, on a également reçu une autre question de Madame Humer.
Oui, Madame Humer des Genevées, pourquoi les doryphores arrivent si rapidement sur les pommes de terre? Comment traiter ça?
Alors ça, c'est pas un problème qui est nouveau, hein. Ça fait depuis la période des guerres qu'on connaît le doryphore sur les champs de pommes de terre. Des anciens diront que les après-midi, ils allaient ramasser les doryphores pour lutter contre cette invasion qui vient, surtout dans des périodes où maintenant le feuillage des pommes de terre, il est tendre, il pousse à une vitesse très rapide parce que le tubercule, il est en train de se former, il y a de l'humidité dans le sol encore en profondeur, ça fait des feuillages importants, et puis ces grands doryphores, ils viennent manger tout ça. Alors il y a sur une petite parcelle de pommes de terre dans son jardin, la méthode la plus simple, c'est d'aller les ramasser à la main, c'est le seul moyen pour essayer d'éviter d'avoir une grosse invasion. Et sinon après, dans le commerce, on va trouver un produit, dans les produits phytosanitaires qu'elle va rencontrer un spécialiste, et puis elle pourra utiliser un traitement pour combattre ces doryphores. C'est la deuxième possibilité. C'est pas trop nocif parce que ça va rester sur le feuillage, mais si elle en a très très peu, une culture très petite, elle peut le faire à la main sans problème. Ça se ramasse et puis les éliminer du feuillage pour que ce feuillage puisse continuer de grandir.
Merci beaucoup Olivier. Pour la suite, une question clairement de saison et qui risque d'intéresser de nombreux de nos auditeurs. J'ai tondu ma pelouse cette semaine et l'herbe est devenue jaune. Je pense qu'elle a eu soif. Que faire pour retrouver de la belle herbe verte ?
Alors oui, c'est une très belle question qui correspond au thème de l'émission de ce matin, les chaleurs et tout ça. Il faut vraiment faire attention. Je dirais même au début d'émission, on demandait qu'est-ce qu'on peut faire dans un verger, par exemple. Eh bien déjà, pas tondre trop court et pas tondre peut-être son herbe maintenant à cette période qui fait très chaud. Même les personnes qui sont équipées d'un robot tonte, d'une tondeuse automatique, ce serait le moment de les couper, de plus les laisser fonctionner trop, parce qu'une herbe qui a soif, eh bien la machine automatique va passer dessus, va la casser, va l'écraser au sol et puis elle va sécher encore plus vite. Donc on va essayer de garder une couverture sur sa terre avec cette herbe, ce gazon qui peut pousser jusqu'à 5, 6, 8 cm pour le laisser naturellement combattre la chaleur et faire de l'ombre sur la terre. La même chose que dans un verger, et pour éviter que le sol se dessèche trop rapidement. Ça, c'est vraiment une manière préventive. Par contre, pour la personne qui a tondu puis que c'est devenu très jaune, eh bien sûr, on peut arroser, mais il faut aussi commencer de faire attention qu'il faut faire des économies d'eau. Donc, l'herbe ne va pas mourir complètement, elle va jaunir. On est quand même encore dans une période où on est censé avoir une période de pluie qui va prochainement arriver. Et quand son herbe repoussera, parce qu'il y a quand même de l'humidité dans le sol, eh bien c'est à ce moment-là qu'il faudrait faire attention de ne pas la recouper trop vite pour laisser un peu de couverture, comme je disais, j'expliquais avant, que ça couvre le sol, parce qu'on sait que le soleil, s'il vient taper sur la terre entre les herbes, eh bien ça va dessécher beaucoup plus vite et puis son gazon va avoir soif. Donc c'est un moyen de prévention. Par contre, après, si elle veut vraiment l'arroser, je dis toujours, quand on arrose, il faut arroser abondamment pour que l'humidité aille dans le sol et qu'on puisse éviter d'arroser tous les jours. Il faut arroser vraiment une fois tous les 2-3 jours, parce que si on arrose que la couche supérieure du sol, on rend les plantes faibles, parce qu'elles demanderont toujours de l'eau. Elles montreront encore plus qu'elles ont soif, parce qu'elles... Nous, on dit, on les rend feignantes parce qu'elles ne vont pas faire un système racinaire profond. Donc, on va mettre de l'eau juste en surface. Elles vont attendre cette eau. Et puis, aussitôt qu'elles n'en ont plus, elles vont montrer qu'elles ont soif. Donc, il faut vraiment que les plantes, quand on veut les arroser, que ce soit dans un pot, que ce soit en pleine terre ou des massifs, il faut arroser abondamment pour ne pas être obligé d'arroser tous les jours. Il faut arroser tous les 2-3 jours maximum.
Merci beaucoup Olivier. J'ai également entendu dire que quand on veut tondre sa pelouse, il faut le faire de préférence avant un ou deux jours de pluie. Est-ce que c'est juste ?
Alors si on peut maîtriser assez facilement la météo et qu'on sait qu'il va pleuvoir, et bien sûr que c'est juste, on va faucher et puis qu'après qu'on est sûr qu'il pleut. Mais si on est sûr qu'il ne pleut pas, et bien vaut mieux laisser pousser son herbe et la tondre après. Le gazon restera beaucoup plus vert, beaucoup plus, je dirais, joli dans le futur de la saison.
Les jardinières.
L'heure tourne et c'est déjà presque la fin des jardinières. Ce matin, nous avons parlé de la taille d'été de vos arbustes en compagnie d'Olivier Ribaud. Olivier, dites-nous, on fait quoi au jardin ce week-end à part chercher de l'ombre et boire de la bière ?
Alors, en effet, il y a plus grand chose à faire. On a dit qu'on ne devait plus trop tondre, on doit faire attention. Au jardin, comme je l'ai dit au début, il y a quand même de protéger du soleil. On peut protéger son jardin comme on peut protéger sa peau. Donc, ombrer, aider à ce que la terre ne se dessèche pas trop vite. Il y a les désherbages qui peuvent être encore faits. Et puis après, on peut aussi utiliser les modes de paillage, par exemple, pour si on a mis en place des choux, même des pommes de terre, on parlait avant, maintenant elles ont été peut-être un peu rebutées, on a fait des buttes au pied. On peut mettre un peu de paille dans les allées pour justement, quand on arrosera, l'humidité va rester en dessous pour aider à ce que la terre ne se dessèche pas trop vite. C'est vraiment la tendance maintenant, il faut comprendre que si on a la terre qui est directement au soleil, et bien sûr elle va venir vite sèche. Je prends l'exemple même dans les champs de maïs, on voit que maintenant le maïs commence à couvrir le sol, donc ça va aider à ce que la terre vienne moins vite sec. Donc une plante, si elle a trop de terre autour d'elle, elle poussera moins vite, elle sera un petit peu plus recroquevillée sur elle-même. Donc si c'est le cas, on peut ombrer, mettre de la paille, mettre des feuilles mortes autour de ces plants pour que cette humidité reste en dessous pour garder le frais le plus longtemps possible.
Merci Olivier, on rappelle que vous êtes pépiniériste et propriétaire d'Olivier Pépiniériste à Queuve. À très bientôt chez les jardinières.
Eh bien merci à vous et puis bonnes vacances, c'était ma dernière pour cette saison.
Oui, mais on aura plaisir à vous retrouver bien sûr au mois de septembre à la rentrée. Par contre, nous on va pas attendre la rentrée pour se retrouver. C'est l'été, nous serons en compagnie la semaine prochaine de Fabrice Rondet qui est paysagiste à Port-en-Truy. Et n'attendez pas samedi prochain bien sûr pour vous nous faire parvenir vos questions. Faites-le à tout moment, vous pouvez le faire via le formulaire qui est disponible sur notre site sous l'onglet « Questions aux jardinières » ou par SMS, vous envoyez « Jardin, un espace, votre question » au 939. Merci Brian d'avoir remplacé Mylène au pied levé. Puis je vous souhaite un bon week-end.
Mais bon week-end à vous et bon week-end à tous les auditeurs. Bon week-end chaud et ensoleillé. Prenez
bon
soin
week-end
de vous.
Tout le monde et à la semaine prochaine.
7h, 8h, les jardinières.